Messieurs et dames, c'est vendredi, printemps et plaisir, pour coûter des mots quatre paroles de 20 à 21h30. Des mots quatre paroles, bonne ou la voix, sur le 88.4. Coûter et entendre, tout plaisir en nous, là.
Pas même Jean Bello, nous changer l'esprit du fond. Pareil les autres finis joignent, avec Aïmou pas ça vous sent bien. Alors doit que profiter, compagnie plus bon d'obité.
Nous caillons, frappez nous, la garde ouais si ça veut. Et nous t'avons pas penso, ma moune qui va même ça vous laillez. Nous caillons, frappez nous, la garde ouais si ça veut.
Bonsoir, auditrices et auditeurs de Radio Galère sur 88.4 en modulation de fréquence ainsi que sur le canal 8C and Plus, sans oublier nos podcasts et notre fenêtre ouverte sur le monde www.radiogalère.org. L'équipe d'animateurs des missions caribéennes, centrée principale sur les régions ultra-périphériques de la France, vous retrouve chaque mois le second jeudi du mois de 20h à 21h30. Ce soir, comme si nous étions le 8 mars, 8 mars, la journée internationale des droits des femmes oblige. Donc nous vous proposons des portraits de femmes qui marquent résolument notre histoire. Des figures mémorables ancrées dans la mémoire collective des peuples ayant été victimes d'esclavage et de situations de domination toujours actuelles qui ne devraient pas exister et qui ne devraient plus exister. Et si nous avons le temps, il y aura peut-être quelques informations, mais je ne pense pas que nous aurons le temps, parce que tellement il y a de portraits de femmes que nous souhaiterions vous présenter, vous parler. Alors, pour nous plonger dans le bain, un hymne à la femme par Joby Bernabé. C'est un hymne qui est celui, le suivant, c'est « Femme ». Merci Sidi pour « Femme » de Joby Bernabé. Et merci à Sidi d'être présent.
Nom en mythe entier, femme fil, caveau plein nom en poil vieillot, femme fiel, qu'a fan froid nom et qu'a coup de langue, femme folle, qu'a pan, t'es nom en bout de branchio. Fout femme flèche, fout femme flèche, fout femme ni fil, fout femme fiel, fout femme folle. Mais fout femme faut fout. Les femmes fait temps, fait force ou fort. Foutre femme, faut foutre. Les femmes fait temps, fait force ou fort. Les noms mec l'eau faillou, femme ram, caram, et non ma toute l'oyo, femme lam, cané, et non ma l'osie, femme flamme, cabri, les noms ma dévoyo. Foot femme can, foot femme nigam, foot femme ram, foot femme lam, foot femme flamme. Mais foot femme fofou, les femmes fait temps, fait force ou fort. Foutre femme, faut foutre. Les femmes fait temps, fait force, fort. Femme flow, qu'a tourné folle pour un babiol. Femme trèfle, qu'a pède la cat pour un watcher. Femme fesse, faut plaiser mille en monnaie aux mamzelles. Femme bœuf, qu'a trimé vête en bajouk nom. Femme faible, cachinien, chien en tout chimène. foot from flow, foot from treff, foot from fest, foot from bef, foot from feb. Mais foot from faux foot. Les femmes faites en fait force ou faux. Aïe, en vérité, foot from faux foot. Les femmes faites en fait force ou faux. Première génération qui prend souffrance et délivrance. Non, t'es à Kakoui, n'en vend et t'a fait l'éternité. Soleil bâti en banquier ou flamboyer entrailles la nuit. C'est pas la vie rentrée dans corps, si mes venait la connaissance et qui t'était au bandit d'en haut. Neuf, la ligne pleine en lèvres d'un haut. Ou pour des chats avant chats fait grand jour. Clairer des bols genoux, ou mettez non masse sous la terre. Ou soin en pays, et puis la chair, et puis chaleur, et puis la soeur. Aïe, femme. Qui moune, qui n'ose mal pas les femmes, aujourd'hui t'as en l'aide. Qui nomme, qui sait pas les divans, sans y prendre en baiser, crachaille, 700 siècles fois en fond rejeté. Qui femme. C'est sa vie femme, avant mille ans, avant cancan, avant parole, ma cibole folle, qu'a si mes fiel et mal, qu'a dit en bas fétaille, en maison noire. Femme, si ouais, moi c'est non, mais non, parole moins, c'est un petit la fumée qu'a filtré en bas canarie. La fumée en caille fait chimé, canarie à lui-même s'est fêlé. Ou à gauche ou en droite, toujours là, où c'est réel d'eau, qu'en autre la vie, où c'est ma belle divine homme. Femme. Si ouais, moi c'est non, mais non. Parole loin, senti la fumée qu'a filtré en bas qu'on arrive. La fumée en cas fait chimée, qu'on arrive à lui-même, c'est fêlé. Ou à gauche ou en droite, toujours là. C'est hello, quand autre la vie, où c'est ma mère qui finit non. Parce qu'en vérité, foot, femme, faut foot. Les femmes, faites tant, faites force
pour
faux.
Et oui, merci, j'oubliais pour femme. Et merci, je voulais savoir si les amis suivaient, puisque lorsque, lors de mon introduction, j'ai parlé du jeudi. Alors que c'est le vendredi, l'émission des mots quatre paroles, bien sûr. Merci Sidi d'avoir rectifié parce que je vois que mes deux amis ici présents, les deux animateurs, n'ont pas noté effectivement cette erreur commise. Alors, rebonsoir aux auditeurs et auditrices à l'écoute des mots quatre paroles. Bonsoir Guy.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Yorgis.
Bonsoir les amis.
Donc, Jeannot n'est pas présent et Gary s'est excusé d'un après-midi. Alors, je voulais confronter Gary à un exercice qui est le suivant, c'est-à-dire essayer de traduire la première strophe de poésie de Joby Bernabé que nous venions juste d'écouter, qui s'appelle « Femme ». Donc, je vais essayer de me confronter à cet exercice extrêmement difficile qui est le créole de Joby, entre autres. Alors, nous allons démarrer. Guy aura pour charge de pouvoir traduire en français pour permettre de restituer un peu la poésie et les phrases de Joby Bernabé pour honorer les femmes. Femme flet, qu'a tourné homme en colibri.
Femme fleur, homme colibri à vos corolles.
Femme flèche, qu'a piché un homme en mi-tentier.
Femme flèche, au beau milieu du cœur des hommes.
Femme fil, qu'a floppé un homme en poésie.
Femme fil. Mal amarré entre vos cils.
Femme fielle, qu'a fond de foi nom et qu'en coup de langue.
Femme fielle, écoute de langue pour fendeur d'homme.
Femme folle, qu'a pontier nom en bout de branchio.
Femme folle, et cœur pendu à vos délires.
Foute femme flèche.
Ô femme siffleur.
Foute femme flèche.
Si flèche.
Foute femme fielle.
Si fil.
Foute femme folle.
Si fiel.
Mais foute femme faux foute.
Si folle. Mais mes femmes d'effort par-dessus tout.
Les femmes faites en fait fausse pour faux.
force de l'âme et force vive au cœur des forces et de l'effort.
Bon, effectivement, l'intonation de la poésie de Joby, nous n'avons pas pu la restituer parce que seul Joby est en capacité à pouvoir le faire. Mais nous avons essayé pour permettre aux auditeurs et auditrices de pouvoir suivre et d'avoir le sens de cette poésie qui est pleine de force, pleine d'illustrations qui sont extrêmement belles dans la bouche de Joby. Comme je vous le disais en introduction, nous vous proposons un portrait de femme abordé de manière plus ou moins chronologique, en commençant par un épisode marquant de l'histoire du Nouveau Monde. Un monde qui n'était pas nouveau, comme vous le savez, mais déjà peuplé par les Indiens Karaïs, victimes des génocides perpétrés par les Européens. Pour ce faire, nous allons évoquer en particulier la figure emblématique de la reine Anakaona, qui est née en 1474 à Yaguana, qui est l'actuel Léogan en Haïti. Son nom signifie « fleur d'or » en langue taïno. Anakaona est l'une des grandes héroïnes indigènes des Caraïbes et une figure centrale de l'histoire d'Haïti. Donc, c'était la chef et la reine des Taïnos, une tribu vivant sur l'île d'Hispaniola, actuellement partagée entre Haïti et la République dominicaine, au moment de l'arrivée des colons européens. Elle était l'épouse de Kaonabo, un autre chef taïno important, et jouait un rôle clé dans la résistance à l'invasion espagnole au début du XVIe siècle. Lorsque Christophe Colomb débarqua sur l'île en 1492, les Taïnos les accueillirent avec respect et cordialité. Mais les Espagnols eurent d'autres projets, convertir les indigènes, s'emparer de leur terre et de leur or. Les Taïnos furent kidnappés, violés et réduits en esclavage. Kaonabo, mari d'Anakaona et cacique de son peuple, fut arrêté et déporté en Espagne où il mourut lors du naufrage du navire. Après la capture de Kaonabo, Anakaona prit la tête de son peuple. Elle gouverna avec sagesse, cherchant à maintenir la paix avec les Espagnols tout en protégeant son peuple et sa culture. Elle tenta de négocier une coexistence pacifique avec les colons, mais face à la violence de la conquête espagnole, elle ne put éviter les conflits. En 1503, les Espagnols, sous le commandement de Nicolas de Ovando, l'invitèrent un banquier à la Navidad, actuelle Léogane, où elle et ses conseillers furent capturés. Cette méthode rappelle celle utilisée par la France pour arrêter Toussaint Louverture, suivie de sa déportation au fort de Jouxte dans le Jura. Accusée de fomenter une rébellion contre les Espagnols, Anakaona fut emprisonnée, jugée et condamnée à mort. Elle fut pendue en 1504, mettant ainsi fin de manière tragique à son règne. Anakaona reste une figure héroïque de l'histoire d'Haïti, symbole de la résistance indigène face à la colonisation européenne. Son nom incarne la lutte pour la liberté, la dignité et la préservation de la culture caraïbe. Elle fut la première résistante à la colonisation de l'île, mais son nom a été effacé de l'histoire officielle, probablement en raison de son sexe, puisque femme. Nous allons poursuivre avec un ouvrage, selon moi, qui est essentiel en la matière, qui a été écrit par Sylvia Serbin, que nous avons reçu, et qui s'intitule « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire ». Alors, bon, en effet, aucune héroïne noire n'est véritablement reconnue par l'histoire universelle. Face à ce constat, Sylvia Serbin a exploré les figures féminines ayant marqué l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora d'Antiquité au début du XXe siècle. Parmi ces figures, on retrouve différentes reines, que ce soit la reine Zinga d'Angola, Poku de Côte d'Ivoire, Rana Volana III de Madagascar, Madame Tinubu, commerçante et politicienne nigérienne du XIXe siècle, la Ménatrice Solitude dont on vous parlera tout à l'heure bien sûr, Ayatuban aux États-Unis, les Amazones de Dahomey, ou encore la Vénus Hottentote d'Afrique du Sud. Alors, la Vénus Hottentote, tu connais Guyane, bon, donc ça fait partie de toute une histoire d'Afrique du Sud au moment de l'apartheid, et surtout ça renvoie aussi à l'exposition coloniale qui a eu aussi, n'est-ce pas, les fameux zoos humains. Alors, nous allons communiquer quelques exemples de femmes africaines courageuses qui ont donc joué un rôle crucial dans la lutte contre la colonisation de la traite négrière, souvent dans des conditions extrêmes. Guy, alors, et la première?
Amina de Zaria, du Nigeria. C'est une reine guerrière du royaume de Zazo, actuellement Zaria au Nigeria. Amina a défendu son royaume contre les envahisseurs extérieurs et mené plusieurs batailles pour préserver l'indépendance de son peuple au XVIe siècle. Son leadership militaire et son combat pour l'indépendance ont inspiré des générations de résistants africains.
Nous allons continuer avec Yaa Asantewaa du Ghana, reine mère du peuple Ashanti. Yaa Asantewaa est célèbre pour sa résistance à l'Empire britannique. Au début du XXe siècle, elle a dirigé l'armée Ashanti dans la guerre de résistance contre les Britanniques. La guerre Ashanti de 1900, elle est devenue un symbole de la lutte contre la domination coloniale. Yorgis, le micro.
Oui. Oui, Nanny of Maron, Jamaïque, elle a, bien qu'elle soit pas née en Afrique, Nanny était une femme marron d'origine africaine, un leader et un guerrier britannique du XVIIIe siècle. En protégeant les esclaves fugitifs, en organisant des attaques contre les colonnes.
Nzinga Mambé de l'Angola, reine du royaume de Ndongo et du Matamba, Nzinga a résisté à l'occupation portugaise et mené plusieurs batailles pour défendre son peuple au XVIIe siècle. Elle est reconnue pour ses compétences diplomatiques et sa stratégie militaire.
Madeleine Xavier du Sénégal, elle a été l'une des premières femmes africaines à s'opposer à la colonisation française en participant activement à des mouvements de résistance dans les années 1940-1950. Son engagement a ouvert la voie à d'autres femmes dans la lutte contre l'impérialisme.
Mangari Matai, Kenya, bien qu'il soit tardif, né en 1940, Mangari Matai a été une militante de première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004, bien qu'elle soit surtout associée à la protection de l'environnement et aux droits humains. Elle a également lutté contre l'influence néocoloniale en Afrique.
Sarah Bartman, Afrique du Sud. Bien que Sarah Bartman, la Vénus de Hottentot, ne soit pas une militante traditionnelle, son exploitation à des fins de curiosité européenne est devenue un symbole des abus infligés aux Africains sous le joug de l'impérialisme européen.
Donc ces femmes, souvent oubliées ou minimisées, ont joué un rôle essentiel dans la résistance à la colonisation et à la traite négrière. Leur courage, leur leadership et leurs actions continuent d'inspirer les luttes pour la justice et l'égalité. Donc nous allons vous proposer d'écouter un morceau de Fania All Stars, Anaka Ona, bien sûr. Merci Cédi.
Un manito muy sabroso, vea, por título Anaka Ona.
Y dice...
Anacaona, india, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí su voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anda.
Anacaona, india de raza cautiva.
Anacaona,
de la región primitiva.
Anacaona, india, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anda.
Anacaona,
arento
de Anacaona.
Se lo pone lindo,
salsa.
Revenons sur les zones de galère avec des mots quatre paroles et nous allons élargir nos horizons en allant à la rencontre d'une femme, en maîtresse femme, comme on dit en créole, visionnaire et révolutionnaire, qui, bien qu'elle ne soit pas antillaise, s'est souciée d'égalité homme-femme. Déjà, c'était à l'époque de la Révolution française, mais aussi de nos aïeux africains esclavagisés. Pour certains et certaines, vous la connaissez, puisqu'il s'agit d'Olympe de Gouges, n'est-ce pas Guy ?
Voilà, oui, Olympe de Gouges, dont on s'est remis à parler sur les antennes de télévision, alors qu'elle était oubliée jusqu'à présent. Olympe de Gouges, 1748-1793, qui fut une figure marquante de la Révolution française, à la fois pour ses écrits et son engagement pour le droit des femmes et contre l'esclavage. Elle est née Marie Gouze et a adopté le nom d'Olympe de Gouges pour ses activités littéraires et militantes. Elle est surtout connue pour sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée en 1791. Dans ce texte, elle revendiquait l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne mentionnait pas spécifiquement les femmes. De Gouges y affirme « la femme née libre et égale à l'homme en droit ». Exigeant notamment le droit de vote et l'égalité en mariage. Elle s'est aussi fermement opposée à l'esclavage, en prenant position contre le système esclavagiste dans ses écrits et soutenant des révoltes des esclaves dans les colonies. Elle a même écrit une pièce de théâtre, « L'esclavage des Noirs », 1789, dans laquelle elle dénonce la cruauté de l'esclavage et plaide pour l'émancipation des esclaves. Malheureusement, son activisme n'a pas été sans risque. Après la montée en puissance des révolutionnaires radicaux, elle a été arrêtée en 1793 pendant la Terreur pour ses opinions politiques, notamment ses critiques envers la violence du régime. Et elle a été condamnée à la guillotine, exécutée le 3 novembre 1793. Olympe de Gouges demeure aujourd'hui une figure emblématique du féminisme et des droits de l'homme.
Et de la femme, surtout, faudrait rajouter, surtout à travers l'action qu'elle a menée,
le don de sa vie.
Parce que vous vous rendez compte, c'était à l'époque où il y avait la Révolution française, ce qui n'était pas du tout évident d'une part. D'autre part, ce qu'elle a fait, s'intéresser au sort des esclaves, ce n'était pas du tout évident pour cette période-là aussi du sort des esclaves. Et à l'époque, lorsqu'elle écrit aussi son texte, ce n'était pas pour rien, parce que c'est à l'époque où en Haïti, il y avait les différents mouvements des Africains qui étaient esclavagisés, qui commençaient à se manifester à Saint-Domingue de façon assez virulente, puisqu'il y avait des attaques de fermes, etc., etc. Il y a eu le serment de Boukman à ce moment-là, toute cette période-là, sur laquelle, l'histoire d'Haïti, sur laquelle nous reviendrons à un moment donné. Il y a d'autres femmes antillaises, guyanaises, réunionnaises et haïtiennes qui ont marqué l'histoire par leur courage, leur engagement politique et leur lutte pour l'émancipation des peuples colonisés et des femmes. Voici aussi un aperçu de certaines d'entre elles qui ont eu un impact profond sur leur société respective et au-delà. Bien sûr, nous ne pouvons pas passer par-dessus Milatres Solitude de la Guadeloupe. Milatres Solitude est une des figures emblématiques de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe, ayant activement participé à la révolution de 1802. Elle est née sous le nom de Rosalie vers 1722 en Guadeloupe et c'est l'enfant d'une esclave violée par le capitaine blanc de navire, négrier. Elle meurt le 29 novembre 1802 sur cette même île. Son histoire incarne la résistance des esclaves noirs, luttant contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 après son abolition en 1794. Solitude, donc, est devenue une héroïne littéraire, notamment grâce aux écrivains André et Simon Schwarzbart qui l'ont mise à l'honneur dans la littérature. Son histoire nous parvient principalement à travers des témoignages oraux consignés par l'historien Auguste Lacour dans son Histoire de la Guadeloupe en 1858. Cette narration a inspiré le couple Schwarzbart qui, en 1972, a publié son roman intitulé « La Mulatresse Solitude » dans lequel ils inventent une biographie romancée de figures historiques. Selon cette version, Solitude serait née en 1672, fille d'une, ce que je vous disais, par le capitaine, et en raison de cette origine, elle est qualifiée de mulâtresse, c'est-à-dire de métisse, et elle grandit avec sa mère dans des camps de marrons où elle participe activement aux luttes pour l'abolition de l'esclavage. Le 2 juin 1794, l'abolition de l'esclavage est proclamée en Guadeloupe. Cependant, en 1802, Napoléon Bonaparte envoie le général Richepanse pour établir l'ordre colonial dans l'île. Ce dernier se heurte à la résistance des officiers libres noirs et mulâtres, dont Louis d'Aigresse, Martiniquais et leurs alliés ont une devise qui est celle de vivre libre ou mourir. Solitude et ses compagnons luttent courageusement contre les troupes du général Richepanse. Elle rejoint, elle, Solitude, les rebelles à Pointe-à-Pitre et participe à leur combat. Le 23 mai 1802, lors de l'attaque du camp Palerme par les troupes coloniales, elle est capturée. Solitude, alors enceinte, est emprisonnée. Elle est condamnée à mort et selon la cour, elle ne sera pas suppliciée, sera suppliciée, que le 29 novembre 1802, le lendemain de son accouchement. Sa fin tragique et héroïque a contribué à faire d'elle une figure emblématique de la résistance à l'esclavage. Sa vie est un témoignage poignant de la lutte pour la liberté et la dignité humaine et de l'indépendance des peuples colonisés. Et quand on parle de Delgrèce, ça le renvoie à l'histoire de Matouba, la montagne de Matouba, où les troupes de Delgrèce se font sauter dans cette montagne qui était en Guadeloupe. Et il y a notamment Sonia Rupert qui a écrit une belle poésie qui s'appelle Matouba, en lien avec cette histoire, et que le 10 mai 1802, il y aura Delgrèce qui prononcera un discours qu'il adressera au monde entier pour parler de la situation de la condition des Noirs. Donc, si dit, après avoir évoqué Mulatresse, nous allons bien sûr passer à une autre figure de la résistance contre l'esclavage qui est et contre la colonisation surtout parce que concernant Dumila Sophy, c'est bien sûr bien après l'abolition de l'esclavage, à quelques années près. Donc nous allons écouter Gary qui n'a pas pu être présent mais qui voulait absolument participer à cette émission et présenter la figure de Dumila Sophy de Martinique. C'est en lien avec ce qu'on a appelé le pan de l'histoire, le Gaoulé, septembre 1870 en Martinique, c'est-à-dire l'insurrection du sud de la Martinique en septembre 1870. Merci Sidi.
Dieu est blanc, cela se voit.
Oui, là-dessus peut-être, mais nous ne savons pas si Dieu est blanc. L'honorable Elijah Mohamed nous enseigne que Jésus n'avait ni les yeux bleus ni les cheveux blonds. L'honorable Elijah Mohamed nous enseigne que les images de Jésus qui ornent les murs de cette prison et des églises du monde entier sont historiquement fausses, parce que l'histoire nous enseigne que Jésus est bel et bien né dans une région peuplée de gens de couleur. On en trouve la preuve dans la Bible que vous nous demandez de lire. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit que Jésus avait les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze.
Oui, mais où voulez-vous en venir ?
Nulle part. Je prouve que Jésus n'était pas, et là je vais citer un de nos frères indiens, Jésus n'était pas un visage pâle.
Adolescent, j'étais séduit par l'idée d'un dieu noir. La première fois que l'idée m'a traversé, c'est quand ma mère m'a montré le film Malcolm X de Spike Lee. Plus tard, un chanteur du nom de Corneille vient m'offrir une autre perspective. Et si le bon Dieu était une femme ?
Moi je dis que le bon Dieu est une femme.
Si Dieu est une femme, si Dieu est noir, alors Dieu est une femme noire. Cette nouvelle idée bouleverse toute une vision du monde. Et alors que Corneille me propose au final l'image d'une déesse noire, qui au fond n'est là dans l'ombre que pour faire briller les hommes, je découvre plus tard la figure de Lumina Sophie, celle dont je ferai plus tard une déesse, une figure spirituelle phare. Si Dieu est une femme noire, alors en Martinique, son nom est Lumina Sophie. Celle que l'histoire coloniale a voulu effacer, réduire à la folie, briser dans les fers et ensevelir dans l'oubli, s'est pourtant levée un jour de septembre 1870, embrasant le sud de la Martinique et inscrivant son nom dans la mémoire d'un peuple. Elle n'avait ni trône ni couronne, mais elle portait en elle l'élan d'un monde à renverser, une fin brûlante de justice et de liberté. Née en 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage, Lumina Sophie n'a jamais connu la liberté promise. Comme ses frères et sœurs de condition, elle grandit dans une société où l'exploitation et le contrôle social n'ont fait que changer de visage. Le travail forcé, le livret ouvrier, l'impôt personnel, chaque nouvelle loi resserre l'étau colonial. Dans cette Martinique étouffée, où les béquets règnent encore en maître, où les rêves de propriété des petits paysans sont piétinés, où les travailleurs noirs sont condamnés à la misère, Lumina Sophie apprend très tôt à ne rien attendre du pouvoir en place. Elle est une femme du peuple, une ouvrière agricole, une combattante. Elle a compris comme tant d'autres que si l'abolition ne s'accompagne pas d'un changement réel, elle n'est rien. Elle sait que les révolutions ne se font pas dans les palais mais dans les cœurs et dans la boue des champs. Et lorsque la condamnation de Léopold de Lubin met le feu aux poudres, elle n'hésite pas. Elle prend la tête des insurgés. Dans la nuit, elle court de maison en maison, enflamme les cœurs et les habitations des oppresseurs. Son cri résonne à travers le sud, appelant les Congos, les paysans, les journaliers, à secouer enfin le joug qui les accable. Lumina Sophie n'est pas seule. Émile Sidney, Louis Telga, Eugène Lacaille et tant d'autres marchent avec elle. Mais elle porte haut la révolte. Elle est de toutes les batailles. Coûte-la au poing en première ligne. Elle veut que les terres soient rendues aux cultivateurs, que l'ordre colonial s'effondre sous les flammes de leur colère. Le vent tourne pourtant trop vite. L'armée coloniale riposte avec une brutalité sans nom. Les insurgés sont traqués, abattus, massacrés sans pitié. L'ordre blanc, renforcé par des volontaires armés, se venge avec une férocité impitoyable. Lumina, capturée, est traînée devant le conseil de guerre. Mais face à ses juges, elle ne plie pas. Elle revendique son rôle. Ils veulent la faire taire, la réduire à une femme manipulée, possédée, irresponsable de ses actes. Elle leur répond par son silence ou par son défi. Condamnée aux travaux forcés à perpétuité, elle est déportée à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Elle y mourra quelques années plus tard, brisée par l'enfer carcéral, mais la légende de Lumina Sophie ne meurt pas avec elle. L'histoire officielle a tenté de la faire disparaître, de la marginaliser, de ne laisser d'elle qu'un spectre agité, une émeutière, une folle. Mais pour celles et ceux qui cherchent, pour celles et ceux qui écoutent, elle brille encore. Elle est le feu qui refuse de s'éteindre, la mère spirituelle de toutes les insoumissions à venir. Là où l'ordre colonial ne voyait qu'un chaos amaté, elle portait un monde en gestation, un rêve de justice qui, bien que réprimé, n'a jamais cessé de hanter l'histoire martiniquaise. Aujourd'hui, à Rivière-Pilote, une statue lui rend hommage. Mais ce n'est pas dans le bronze que son héritage survit. C'est dans la mémoire vivante de celles et ceux qui, en elle, reconnaissent non seulement une héroïne, mais une guide, voire une divinité noire de révolte et de dignité. Le propos sous-jacent, c'est que je considère que la spiritualité chrétienne fait partie de nous. Elle a structuré nos manières de vivre le monde et de le penser. Pour autant, nous savons aussi les horreurs que nos aïeux ont endurées pour qu'on leur inculque cette religion. Et c'est cette ambivalence que j'ai voulu questionner. Oui, la religion fait partie de nous. Oui, elle nous a été inculquée de manière douteuse et horrible. Et oui, nous pouvons nous la réapproprier avec nos propres références. C'est d'ailleurs ce que nous faisons aux Antilles. Nous ne vivons pas la religion de manière bête et disciplinée. Nous la conjuguons malgré nous avec ce que nous sommes, avec nos parts de rébellion et nos croyances annexes, avec ce que la machine esclavagiste n'a pas réussi à broyer. Notre christianisme est rebelle, notre christianisme est magico-religieux. Dans ce nouveau cadre spirituel et religieux, qui pourrait remplacer Jésus ? Qui dans l'histoire de la Martinique pourrait incarner une figure centrale ? Lumina Sophie m'est apparue comme une évidence. Elle a parcouru 110 km à pied, enceinte, pour rallier les insurgés et mettre le feu aux plantations. Elle s'est dressée contre l'ordre colonial, refusant la soumission. Les autorités ont refusé de voir en elle une meneuse, car elle était une femme. Condamnée non pas à mort, mais à un enfer carcéral dont elle ne reviendra jamais, elle incarne une force spirituelle. Elle incarne une foi en la libération. Parmi les choses pour lesquelles elle a été condamnée, il y avait le blasphème. Car dans sa colère, elle criait « Je veux tout brûler. Et si le bon Dieu descendait du ciel, je le brûlerais aussi, parce qu'il doit être un vieux béquet. » Ce principe du blasphème, en hommage à Lumina, nous devons absolument en faire quelque chose. Pas un blasphème gratuit contre la religion, mais un acte conscient. Car notre histoire et le rapport engendré chez nous à la religion est un blasphème en soi, si on y réfléchit. Actons ce blasphème en détournant les codes du christianisme pour en faire quelque chose de martiniquais, de caribéen, de nègre et de féministe. Lumina a parcouru 110 km à pied. On retrouve aussi la notion de pèlerinage. Un pèlerinage non pas vers une rédemption imposée, mais vers une délivrance choisie. Et puisque notre nouvelle foi est révolutionnaire et célèbre la résistance des femmes, rappelons toutes ces femmes qui ont été condamnées aux côtés de Lumina. Marie Rivière, Marie-Louise, Cléria Rivière, Chériette Chérubin, Marie Finoli, dite Capresse, Marie-Claire Rivière, Asténie Boissonnet, Malvina Sylvain, Mazoun, Amande Jean-Marie, Sylvanie Sylvain, Antoinette Michel, Luisine Chérubin, Robertine Geneviève, Boisson Henriette, Maria Bouchon.
Et oui, merci pour ce témoignage, cette intervention concernant Lumina Sophie. Pour les auditeurs et auditrices qui sont intéressés par la vie de Lumina Sophie et des autres révolutionnaires femmes, il y a une historienne martiniquaise qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle tout simplement Lumina Sophie, où il y a d'autres informations concernant le Gaoulé de septembre 1870, l'insurrection du sud de la Martinique. Donc ce sont des informations qui sont intéressantes et lorsque l'on approfondit le sujet, nous pouvons observer que c'est comme le soulignait Gary, que c'était après l'abolition de l'esclavage, mais qu'il y avait toujours cette séparation qu'il y avait entre les béquets, les familles béquets, les blancs et les noirs martiniquais. Et les noirs martiniquais qui ont été esclaves mais qui n'étaient plus, mais aussi les nouveaux africains qui étaient venus dans ce que l'on appelait l'engagement. Ils sont restés, ils ont participé à cette révolution parce qu'ils étaient considérés comme les noirs esclaves, mais ils n'ont pas connu l'esclave en tant que tel. Donc ça a été une période qui a été très très riche en termes d'informations et que je pense que nous autres anti-Guyanais, nous devrions nous approprier cette histoire. Pour continuer avec Gary Sidi, nous allons écouter un morceau concernant Lumina Sophie de la composition de Gary justement. Merci Gary, en nous, merci Sidi.
Même ni 20 ans, y'a dit, oui, surprise. Lumina, Lumina, ces femmes sans l'air. Soweto, Lumina, Lumina, lève un goumé.
Lumina, Lumina,
femme qui femme, femme surprise.
Merci, merci beaucoup pour ce morceau, Gary, que tu as composé et qui est interprété par une chanteuse qui est effectivement extrêmement bien intéressante, n'est-ce pas, Guy? Donc, Lumina nécessite d'être connue et reconnue en tant que telle, y compris par les Martiniquais et Martiniquaises aussi. Nous allons poursuivre avec quelques contemporaines parmi ces femmes-là et ces portraits de femmes. Et nous allons passer à Gertie Archimède, n'est-ce pas, de la Guadeloupe.
De la Guadeloupe, qui est née le 26 avril 1909 à Mornalo, en Guadeloupe, et décédée le 15 août 1980, donc à Basse-Terre. C'était une avocate, une femme politique guadeloupéenne, pionnière en tant que première femme inscrite au barreau de la Guadeloupe en 1939. Elle était également la première femme avocate des Antilles françaises. Fille de Justin Archimède, maire de Mornalo, et de Marie-Adélaïde Tamarin. Elle a poursuivi ses études en Guadeloupe, en Martinique et à Paris à la Sorbonne. En 1945, elle devient conseillère générale sur la liste communiste représentant plusieurs cantons de Guadeloupe. Elle rejoint le Parti communiste français en 1948 et en 1980. Elle préside le 7e congrès du Parti communiste guadeloupéen. Élue députée de la Guadeloupe en 1946, elle devient l'une des premières femmes députées de la région. Elle siège à l'Assemblée nationale et œuvre sur les projets législatifs importants, notamment pour la reconnaissance des droits de femmes et la reconstruction de Pointe-à-Pitre. Militante féministe, elle fonde en Guadeloupe une branche de l'Union des femmes françaises et milite pour l'extension de la sécurité sociale et des droits à la retraite pour les femmes guadeloupéennes. Elle revient à ses activités d'avocate après son mandat parlementaire et participe à la défense des 16 de Basse-Pointe. Elle devient bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe de 1967 à 1970. Gertie Archimède est également connue pour son aide à la militante Angela Davis lors de son passage en Guadeloupe en 1969. Elle reçoit de nombreux hommages, notamment un bronze à Basse-Terre et une rue porte son nom à Paris. Plusieurs institutions telles que le musée Gertie Archimède à Basse-Terre et l'amphithéâtre de l'Université des Antilles et de la Guyane ont été dédiés à sa mémoire. En 2019, la région de Guadeloupe a déclaré l'année de Gertie Archimède. Son héritage continue d'être honoré par diverses promotions et institutions.
Et oui, donc c'est une dame qu'il faut reconnaître, qu'il faut, pour ceux et celles qui la découvrent, nous sommes très heureux que vous puissiez savoir un peu de qui il s'agit, cette avocate. Et celle de Basse-Pointe, c'est un procès. Donc il faudra que l'on puisse revenir un peu sur cette affaire-là aussi qui a défrayé la chronique à l'époque. Nous allons passer en Martinique et vous parler des sœurs Nardal, Paulette Nardal et sa sœur Jeanne. Alors, il y a eu deux ouvrages qui sont inédits sur les sœurs Nardal qui ont été publiés. Et alors, c'est Léa Bourmain-Chauvac qui présente la première biographie des sœurs martiniquaises, quand Brent Hayes Edwards rassemble les écrits de Paulette Nardal dans une anthologie, deux livres qui soulignent la modernité de ces femmes de lettres. Et donc, c'est un article que j'ai trouvé qui date du 19 avril 2024. Une question qui se pose, et si Paulette Nardal était plus que la marraine de la négritude? Depuis quelques années, la Martiniquaise et ses sœurs qui tenaient un salon littéraire à Clamart il y a tout juste un siècle, sortent tout doucement de l'oubli. Leur nom orne une rue du 14e arrondissement de Paris, leur visage s'affiche dans les documentaires et leurs textes se lisent sur des recherches universitaires. Une reconnaissance parcellaire. Grâce à la publication simultanée de ces deux ouvrages sur les sœurs Nardal, il est désormais possible de découvrir ou de redécouvrir ces pionnières du combat contre le racisme et pour la cause des femmes. Sept femmes de lettres et musiciennes qui, chacune à leur manière, ont guidé les Martiniquais et les Noirs en général vers la conscience de race. Dans une biographie, aux notes d'enquête, Léa Mornin-Chauvac avance se questionne et rassemble les morceaux pour produire un récit nuancé de la vie des sœurs Nardal. Elle écrit « Je voulais un peu déplacer le focus de Paulette pour apporter des éléments sur les autres sœurs comme André ou Jeanne », précise Léa Mornin-Chauvac. Par exemple, Jeanne Nardal a énormément participé à passer les fondations de la négritude. Avec son texte, l'International Noir, publié en 1928 dans la revue La Dépêche africaine, Jeanne Nardal appelle déjà les Noirs africains, afro-américains et antillais à s'unir. Une contribution, donc, c'est à l'émergence de la négritude, peu, voire pas reconnue par les chantres du mouvement. Nous vous rappelons lesquels, Césaire, Damas et Senghor. Pourtant, c'est bien à Clamart, dans le salon de Sœur Nardal, que ces penseurs se sont rencontrés au milieu d'une émulation intellectuelle sans pareil. Pour parler de cette émulation, nous rappelons que c'était la période où il y a eu la renaissance de Harlem, un mouvement qui est survenu dans les années 1920-1930 aux États-Unis. Et ça a été une période extrêmement florissante pour la culture afro-américaine, qui a été marquée par une explosion de la littérature, de la musique et des arts visuels. Cherchant à échapper à la ségrégation raciale et à trouver un environnement plus ouvert, donc il y a eu plusieurs écrivains afro-américains qui ont choisi de s'installer en France, où ils ont trouvé un accueil plus favorable à leur expression artistique. Parmi ces écrivains, certains ont fréquenté le salon littéraire tenu par les sœurs Paulette et Jeanne Nardal à Clamart, en banlieue parisienne. Ce salon, actif à la fin des années 1920 ou au début des années 1930, est devenu un lieu de rencontre essentiel pour les intellectuels noirs de l'époque, réunissant des Africains, des Afro-Américains, des Antillais et des Guyanais. Elles reçoivent notamment, outre César qui vient peu, Léopold Sédar Senghor, Langston Hughes, Jean Pressmeyer, Richard Wright, Marcus Garvey et Claude McKay, et bien sûr bien d'autres. Donc on peut considérer que ces sœurs, les sœurs Nardal, donc, ont joué un rôle crucial en facilitant les échanges entre les intellectuels francophones et anglophones. Leur salon a ainsi contribué à la formation d'une conscience noire universelle, jetant les bases du concept de la négritude. Mais cette conscience de la négritude, elle a été quasiment ignorée et on a considéré que c'était surtout le trio dont je vous ai parlé, que ce soit Léopold Sédar Senghor, que ce soit Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. Donc il y a beaucoup d'écrits qui démontrent qu'elles étaient bien en avance, puisque et elles avançaient l'idée communiste et socialiste qui prenait de l'ampleur en prônant l'anticolonialisme. Donc elles étaient dans cette période-là. Il y a une position que n'a jamais revendiquée Paulette Nardal, mais elle sentait un peu la naphtaline à côté des autres, c'est ce que résume la biographe. Donc, grâce à l'ouvrage de Paulette Nardal, « Écrire le monde noir », publié aux éditions Roodbourg Creek, une quarantaine d'écrits de Paulette, dont certains n'ont encore jamais été dévoilés au grand public, sont désormais compilés dans cette première anthologie francophone. Et sa pensée un peu plus accessible, et je cite, « L'antillaise marchande des rues, on défrise les cheveux crépus ou danse au soleil, biguine et rumba. Paulette Nardal alterne sans difficulté entre la culture, la politique et l'international. » Dans son texte le plus connu, Éveil de la conscience de race, Paulette Nadal crée déjà un lien entre race et genre comme catalyseur de discrimination. Aujourd'hui, on pourrait qualifier l'engagement de Paulette Nadal de féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'elle entend lutter contre une convergence de facteurs de discrimination vécus par les femmes, comme les oppressions ethniques, mais aussi religieuses, sociales et économiques. Dès 1932, Paulette Nadal écrivait « Les femmes de couleur vivant seules dans la métropole, moins favorisées jusqu'à l'exposition coloniale que leurs congénères masculins au facile succès, ont ressenti bien avant eux le besoin d'une solidarité raciale qui ne serait pas seulement d'ordre matériel. C'est ainsi qu'elles se sont éveillées à la conscience de race, Paulette, selon Paulette Nadal. » Un siècle plus tard, donc, les textes de Paulette Nadal ne sentent pas la naphtaline, loin de là. Aujourd'hui, et les écrits de Paulette Nadal nous parlent, insiste depuis New York, Brent A.S. Edwards, on vit un moment où la conscience raciale est mise en avant. Paulette Nadal nous rappelle que c'est quelque chose d'ancré de très profond et qui ne doit pas seulement être compris au niveau de la France, mais aussi au niveau mondial. Ce que j'entends dans leurs textes, c'est qu'elles se considéraient profondément françaises et qu'elles suggéraient déjà une autre proposition de la citoyenneté française, une vision moins étriquée. Pour moi, ça fait écho à notre époque, à cette idée que l'identité française est multiple, selon Léa Mormoin, charmante auteure de la biographie. Donc, ces sortir de l'ombre, les sœurs Nadal peuvent désormais devenir des modèles pour les luttes actuelles et à venir. De nombreuses femmes mériteraient d'apparaître dans notre portrait, telles que Suzanne Roussy, épouse de Césaire, puisqu'elle s'appelait, elle avait épousé Aimé Césaire. Il y aurait Marie Scondier, Christiane Taubira ou encore Suzanne Amando Payet, une femme noire libre qui dévia les préjugés reçus dans la Guyane coloniale du XVIIIe siècle. Donc, nous allons poursuivre avec Guy. Donc, tu voulais nous présenter quelqu'un aussi, une dame, c'est Eusanne Palsy. C'est voilà. Elle qui est un...
Voilà, qui m'a touché particulièrement, puisqu'elle a été porteuse de l'image de la culture caribéenne, mais à travers le monde. Elle a une reconnaissance mondiale, ce qui est assez rare déjà pour une femme, et en plus une femme caribéenne. Voilà, donc alors c'est la Benjamine d'une famille de 6 enfants. Eusanne Palsy est née le 13 janvier 1958 au Gros-Morne en Martinique. Son père travaille à l'usine d'Enel, sa mère s'occupe du foyer. Déjà dès sa plus tendre enfance, Eusanne se passionne pour la lecture et le cinéma. Elle écrit d'ailleurs quelques nouvelles et quelques poèmes. À l'âge de 14 ans, elle découvre Rue Casnègre, le roman de Joseph Zobel. Ce livre évoque le triste quotidien d'un enfant noir dans les champs de plantation dans les années 30. Elle le lit, le relit, le lit pour plusieurs fois. C'est une vraie révélation pour elle. L'adolescente se jure déjà d'adapter cet ouvrage au cinéma. À cette époque, l'image des noirs dans le milieu du cinéma est souvent dévalorisée ou dégradée ou limitée à des représentations racistes. Déterminée, Eusanne Palsy, âgée de 17 ans, réalise avec audace et de manière autodidacte son premier téléfilm, qui est un téléfilm, La Messagère, pour la télévision française de Martinique. Ses débuts, en 1975, encouragée par son père, elle quitte la Martinique pour poursuivre ses études en France hexagonale. Elle mène de front des études de lettres, théâtre à la Sorbonne et une formation de directrice de la photographie à l'École nationale supérieure Louis Lumière. Elle y rencontre des grands noms de cinéma, tels que Jean Rouch, René Gilson ou encore François Truffaut. Ce dernier le prendra sous son aile. Elle travaille en parallèle sur d'autres films, Safrana de Sidi Sokona, un réalisateur mauricien. La raison de Daniel Colo Sanou, réalisateur et producteur du Burkinabé. Voilà, pardon, excusez-moi. Elle fait ses études en tant qu'assistante sur plusieurs films, tout en continuant à peaufiner son projet. Fin prête, en 1981, elle présente son adaptation au jury du CNC et obtient à l'unanimité une avance sur recette, chose extrêmement rare pour un cinéaste antillais. Le succès arrive. L'année suivante, Eusanne Palsy réalise son rêve d'adolescente et signe son premier long métrage, Rue Casnègre, adapté du livre de Joseph Zobel. Dans ce livre, éponyme, porté hautement par Darling Legitimus, on retrouve quelques protagonistes tels que Gary Cadena ou Eugène Mona. La musique est signée par le groupe Malavoie. Le film est un véritable succès. Il remporte 17 prix internationaux en France, aux États-Unis, tels que le César de la meilleure première œuvre, une première pour une femme cinéaste noire, ainsi que le Lion d'argent à la Mostra de Venise. Il est aussi primé au Festival panafricain du cinéma. Grâce à Eusanne Palsy, Darling Légitimus, jusque-là ignoré par les professionnels du cinéma, atteint le summum de la reconnaissance. La comédienne, âgée de 76 ans, sera primée pour son interprétation magistrale dans Mantitine. Du jour au lendemain, Eusanne Palsy, âgée d'à peine 25 ans, intègre la cour des grands. À la suite de cela, elle est repérée par Hollywood et à la demande de Robert Redford, en 1985, elle part aux États-Unis afin de participer au festival de mise en scène de Sundance, son festival consacré au cinéma indépendant américain, et aussi pour développer son nouveau projet aux ateliers d'écriture. Durant cette période, en 1989, Eusanne adapte une nouvelle fois un roman, le best-seller anti-apartheid d'André Brink, Une saison blanche et sèche, dans lequel un enseignant blanc prend peu à peu conscience de la violence du régime ségrégationniste lorsque le jardinier noir de l'école où il travaille est arrêté. Le tournage a lieu au Zimbabwe, alors que Nelson Mandela est encore derrière les barreaux, en Afrique du Sud. Dans ce film, elle s'offre un casting prodigieux, composé de Zaké Mokae, Donald Sutherland, Suzanne Sarandon et Marlon Brando.
Et ce dernier, à l'époque, ne voulait plus tourner. Oui. Et Eusanne, elle a réussi effectivement à le persuader de venir tourner dans ce film.
Voilà, elle réussit le tour de force de diriger Marlon Brando qui revient sur scène après 7 ans d'absence.
Voilà.
Elle est aussi la première cinéaste noire produite par une major, la Metro Goldwyn Mayer. Pour ce film, Marlon Brando sera d'ailleurs nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Le film connaît un grand succès et lui permet de recevoir le prix Orson Welles Prize Special Cinematic Achievement. Mais en France, le cinéma noir n'évolue pas. Fort de ce constat, Eusanne décide de retourner aux Antilles. Et en 1992, elle se lance dans la réalisation d'un conte musical, Siméon. Dans ce long métrage, on retrouve de nombreux acteurs tels que Jean-Claude Duverger, Jean-Pierre Martial ou Pascal Légitimus. La musique du film sera portée par le groupe Kassav. Un succès encore au rendez-vous enchantera bien des générations. De 1994 à 1995, Eusanne rend un vibrant hommage à son père spirituel, Aimé Césaire, au travers d'une trilogie intitulée Aimé Césaire, une voie pour l'histoire. Elle décide enfin de reprendre le chemin des États-Unis où elle réalise et coproduit le film Ruby Bridges, diffusé en 1999 à la télévision américaine. Ce téléfilm met en lumière l'histoire d'une écolière noire qui fréquente en 1960 un établissement réservé aux Blancs. En 2001, elle réalise le Killinger avec au casting l'acteur Maurice Chestnut, drame sur la mutinerie de la prison d'Attica qui a eu lieu entre le 9 et le 13 septembre 1971 dans l'État de New York. Elle continue son devoir de mémoire en réalisant Parcours dissident, un documentaire sur le parcours méconnu des résistants antillais, venu prêter main forte à la France suite à l'appel du général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, elle met en exergue un autre point marquant de l'histoire, à savoir le mariage forcé de 3 femmes à des expatriés français au XVIIe siècle, sur l'île de la Réunion, au travers du film « Les mariés de l'île Bourbon ». En 2001, le Sojourner Truth Award lui est remis par le critique américain Robert Ebert lors du Festival de Cannes. En 2011, le Festival de Cannes lui rend une image et projette la version restaurée de son film « Rue Cazenègre ». Depuis 2013, elle est membre du Comité national de la mémoire de l'histoire de l'esclavage. Lors de la cérémonie des Oscars 2021, le comédien Jean-Pascal Zadi lui rend un vibrant hommage à la remise de son prix pour le meilleur espoir masculin, remerciant celles et ceux qui lui ont ouvert la brèche. Le 19 novembre 1922, Eusanne Palsy est récompensée par un Oscar d'honneur concernant son parcours exceptionnel. Cet Oscar lui sera remis par Viola Davis. Elle dédiera sa récompense à la Martinique, à ses filles et à Aimé Césaire. Eusanne Palsy devient la deuxième cinéaste française, après Agnès Varda, à recevoir une telle reconnaissance. À Martinique, dans sa famille, sa commune d'origine, le collège porte son nom. Et une salle de cinéma, Eusanne Palsy, dans la ville de Fouillat, dans l'Oise. Alors, bien sûr, elle a eu diverses distinctions et décorations, Ordre national du mérite, la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur, grand officier, Ordre national du mérite, etc. Enfin, c'est une reconnaissance méritée qu'elle a, donc, oui. Elle qui a porté très haut le drapeau, on peut dire drapeau antillais et martiniquais, et dans le monde entier, grâce à sa filmographie, ce sont génies, on peut oui, dire, on peut on, le dire sans.
On peut considérer que ce sont des films engagés aussi.
Voilà.
Et si je reviens sur le parcours des dissidents, il faut rappeler que les dissidents, ce sont ceux qui ont participé à la guerre de 39-45. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont franchi le canal de la Dominique notamment, et aussi au moment où la Martinique était sous la coupe du général de l'amiral Robert, c'est-à-dire c'est la période de Vichy. Donc c'était Vichy en Martinique. Il y a des jeunes martiniquais, Anastar de Fanon, Franz Sega et bien d'autres jeunes qui n'ont fait que prendre des bateaux. Et à l'insu du système qui a été mis en place par les tenants du régime de Vichy. Et ils ont pris et se sont débarqués à la Dominique pour s'engager du côté des troupes françaises. Le fait qu'ils se sont engagés, cela n'a été qu'en 2009 qu'ils ont été décorés. Pourquoi ? Parce qu'au mois de... En 2009, vous vous souvenez qu'il y a eu les grandes manifestations, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, voire La Réunion, contre la vie chère. Et pour apaiser la situation qui était extrêmement tendue, il y a Nicolas Sarkozy, qui était président à ce moment-là, qui a décidé de reconnaître un peu la valeur de ces personnes qui ont voulu participer à la guerre pour défendre la mère patrie, puisque ça faisait partie de l'idéologie de toutes ces générations-là à l'époque. Donc ils ont tous été reconnus, même ceux qui ont été morts, et à titre posthume, ils ont été décorés aussi.
Oui, alors tous et pas tous, parce qu'il y a une partie de ces jeunes qui ont été réquisitionnés par les Américains, qui au moment de la déclaration de la guerre, de l'entrée en guerre des Américains, ils ont confisqué les bateaux et pris tous ces jeunes, les ont menés dans l'armée américaine et ils ont combattu dans le Pacifique. Seulement, il n'y a aucune reconnaissance, puisqu'après, ils ont repris la nationalité française, puisque pendant quelque temps, ils avaient eu la nationalité américaine. Donc, on leur a rendu, les Américains, ils sont bien empressés de rendre leur nationalité et les faire tomber dans l'oubli. Voilà, donc j'en connais. Donc, moi, je peux parler, puisque j'ai fait des recherches là-dessus pour mon père, donc qui a navigué, qui a fait Guadalcanal, etc. Et qui n'a aucune reconnaissance, ni du côté américain, ni du côté français, puisqu'on a dit, on a fait des documents qui n'était pas à l'époque avec l'armée française.
Juste un point avant de faire une autre pause musicale, c'est de dire que ces jeunes militaires de l'époque, ils ont connu un peu ce que c'était le racisme. Hein. Bon, ils avaient beau être français, se croire français, y compris Franz Fanon, la première épreuve qu'il subira et qu'il vivra le racisme, c'était au sein de l'armée française, alors qu'il portait, comme tous ces jeunes âgés, tout juste de la majorité, même pas 18 ans, 17 ans, 18 ans, ils prenaient le bateau pour défendre cet idéal, cette idéologie de mère patrie qui était dans leur tête, pour se confronter aussi au racisme, au-delà du fait qu'ils participaient à la libération de la France. Alors, si nous faisions une petite pause musicale, pas vrai Sidi ? Sidi est extrêmement occupé avec Yorgis, donc pause musicale, nous allons écouter un morceau de Groka interprété par une femme, qui est la fessée, Madame Daomé, et Noa Mosoa, c'est Yo. En nous, allez Sidi.
Yo, bate de goudlo. Poupye bwa pe grandi, yo pote sel, yo pote let, yo pote diri.
Yo, pas sa palais, mais c'est vous premier qui dé-
nous abordons la dernière partie de l'émission Démocratie pour ce soir. Mais avant cela, je veux saluer Maradi, Maurice, samedi bon matin, demain matin, café émission Ponche Rétro-Caraïbe. Maradi, monsieur Thiébé, parce que Bagala, bandé, parce que tout long, tous les samedis bon matin, roulant. Donc Maradou, Peace Force, et demain matin, mec, écoutez, musique là, vous voyez, nous, tous ces auditeurs, Radio Galère. D'ailleurs, pour la dernière partie, donc comme je vous le disais, on ne peut pas passer sous silence certains faits qui se sont déroulés, notamment à La Réunion. C'est le journal, c'est l'Outre-mer Première qui a proposé trois articles, et entre autres sur les trois, je me suis arrêté sur un qui concerne l'avortement forcé contraceptif expérimental sur les violences médicales sur les femmes à La Réunion. Et cela s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes de ce 8 mars 2025. Donc c'est un dossier qui est consacré aux femmes réunionnaises à qui on a imposé l'avortement forcé ou contraceptif expérimental. Pourtant, ce contraceptif expérimental était pourtant non autorisé. En résumé, ce dossier met en lumière des violences médicales subies par ces femmes réunionnaises dans les années 60-1970. Et cela, c'est sous couvert, comme à l'époque où cela se disait, sous couvert de la lutte contre la surpopulation. Donc il y a des médecins qui ont pratiqué des avortements forcés. Ils ont imposé des contraceptifs aussi expérimentaux, comme le Depo-Provera, qui était interdit ailleurs. Ces pratiques ciblaient principalement les femmes pauvres et non blanches, sans leur consentement, entraînant de graves effets secondaires. Soutenue par les autorités françaises et des figures comme Michel Debré, cette politique reflétait une logique racialisée et eugéniste. Françoise Vergès, issue de politologue bien connu, c'était la famille de Vergès, que ce soit l'avocat ou bien de la grande famille de la Réunion, du Parti communiste réunionnais, et a écrit un ouvrage, un essai, Dans le ventre des femmes, qui analyse cette gestion du corps des femmes d'outre-mer dans un contexte post-colonial. Elle démontre comment la maternité a été instrumentalisée pour maintenir des rapports de pouvoir entre l'État, race et genre, soulignant l'héritage persistant du patriarcat et du colonialisme dans les politiques de reproduction. Revenons donc sur de tels événements, qui ne se sont pas sans nous rappeler le scandale du chlordécone aux Antilles et de notre côté, qui fera l'objet d'une émission, bien sûr. Alors Guy, tu peux rappeler les faits en 1970?
Voilà, en 1970, le docteur Cerveau est appelé en urgence par une famille d'un village de la commune des Trois Bassins à La Réunion. Leur fille de 17 ans a perdu connaissance et saigne beaucoup. Le médecin diagnostique une hémorragie due à un avortement et un curetage. Rapidement, l'enquête révèle que les avortements et les stérilisations ont lieu dans cette clinique. Combien ? Selon les quotidiens communistes et réunionnais témoignages, la clinique de Saint-Benoît aurait effectué en 1969 1018 interventions en gynécologie, dont 844 avortements. Certains souhaités, d'autres non. Aucun chiffre consolidé ne peut être avancé car ces opérations ne sont pas légales et elles sont interdites par la loi. Le paradoxe est là. Alors il faut qu'à l'époque, dans l'Hexagone, des militants se battent pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, et faire cesser les avortements clandestins où les femmes risquaient leur vie. À La Réunion, de futures mères qui n'ont rien demandé perdent leur bébé sur décision de médecins. C'est le cas de Madame Robert, l'une des seules victimes à avoir accepté de témoigner à visage découvert dans les 30 courageuses de La Réunion. Une affaire oubliée. Un documentaire réalisé par Jarmila Buskova. Enceinte de 2 mois, elle a dû être opérée pour une appendicite sur les conseils d'un médecin, le docteur Moreau, responsable de la clinique de Saint-Benoît. « Mais au lieu de l'appendicite, il m'a retiré mon enfant », dénonce-t-elle au sujet de docteur Ladjaj, chirurgien qui a pratiqué l'opération. « Ça m'a marqué. J'y pensais chaque fois que je passais devant la clinique. » Madame Robert et 35 autres femmes ont eu le courage de porter plainte et de témoigner au procès qui s'ouvre en 1971. Un procès qui oppose les deux mondes. D'un côté, les femmes pauvres, pour la plupart noires et mal barrées et souvent illettrées. De l'autre, des médecins majoritaires blancs,
majoritairement blancs, notables, influents, bénéficiant de réseaux politiques. Parmi les prévenus, le docteur Lajjaj. Ce dernier écrira avant son procès la sécurité sociale. Le président du conseil m'a donné le feu vert pour les stérilisations. Il sera au final condamné le 5 mars 71 à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 3,6 millions d'amendes. Il lui est interdit d'exercer la profession pendant 5 ans. Le docteur David Moreau est aussi poursuivi comme représentant de la clinique. Ce proche de Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle et influent chef de file de la droite réunionnaise, sera jugé civilement responsable mais ne sera condamné à aucune peine.
La campagne donc antinataliste de l'époque, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans toutes les dernières colonies, pourrions-nous dire, pour aller au plus vite, est flagrante. Dans un contexte de guerre froide, la France s'inquiète de forte croissance de la population aux Antilles et à La Réunion, synonyme pour elle de pauvreté, de sous-développement et d'expansion du communisme, une thèse qui est partagée aussi par d'autres pays. Donc, la France décide de contrôler les naissances pour lutter contre la surpopulation, telle qu'on le disait. À La Réunion, cette politique antinataliste trouve un écho chez Michel Debré pour limiter cette démographie galopante et milite pour l'envoi d'enfants réunionnais dans la Creuse. Donc c'est une affaire qui a éclaté il y a depuis quelques temps maintenant, dont on a parlé. Les enfants réunionnais de la Creuse ont grandi, ils ont découvert qu'ils avaient toujours de la famille et comment ont-ils été séparés de façon tout à fait arbitraire par des assistantes sociales de l'aide sociale à l'enfance, qui allaient voir ces personnes qui étaient soit analphabètes, soit illettrées, qui étaient pauvres, qui étaient surtout et qui leur demandaient, disaient que les enfants devait partir en France pour recevoir une autre éducation, pour aller à l'école, etc. Alors que ce que cherchait le gouvernement français, c'était de repeupler la Creuse pour permettre à ceux qui puissent avoir un peu plus d'habitants à l'époque. Et ces personnes-là, ces enfants ont grandi et qu'ils ont dénoncé lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient d'origine réunionnaise, parce que pour certains, ils ne le savaient pas. Il y a eu tout un film, tout un développement qui s'est déroulé. Jusqu'à présent, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de réunionnais qui doivent faire la part des choses et qui doivent retrouver leur famille actuellement ainsi que leurs racines. Alors, nous revenons à la sociologue et docteur en sciences politiques, Myriam Paris, qui, dans son article « La racialisation d'une politique publique, le contrôle et la natalité à La Réunion » des années 1960 à 70, qui a été publié dans la revue Politis en 2020. Donc, il dépêche aussi dans l'île une équipe de médecins ayant pour mission de populariser des méthodes contraceptives lorsqu'il devient député en 1963. Ça, c'est bien sûr, il parle de Michel Debré. Michel Debré, en campagne pour les législatives à Saint-Denis-de-Réunion en 63, l'année de création du Bumidom. Bumidom, vous savez ce que c'est le bureau d'immigration des départements d'outre-mer. C'est justement ce qui a permis à beaucoup d'Antillais et de Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, voire Réunionnais, à être déportés en France pour éviter qu'il puisse y avoir trop de mouvements sociaux et surtout qu'il ne puisse plus pas avoir, de mouvements pour sollicitant, demandant l'indépendance des différents pays. Parce que ces années-là, comme vous le savez, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le droit des mouvements d'indépendance dans tous les pays africains, voire Indochine, etc. Et que beaucoup d'intellectuels, tant réunionnais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, se sont branchés dans se sont engouffrés dans cette dynamique-là internationale pour demander, revendiquer l'indépendance de leur pays. Donc, le Bumidom a servi, a été quelque chose qui a été créé pour éviter qu'il puisse y avoir tous ces mouvements sociaux et de demande d'indépendance. Donc, revenons à cette problématique de contraception. Cette contraception vise surtout les femmes de couleur. Se basant sur les archives et des rapports remis aux autorités françaises, Myriam Paris écrit ainsi que des sociologues, parlementaires et membres du corps médical s'inquiètent d'un déséquilibre démographique au profit des Indiens malbars et le spectre d'un suicide racial et la réduction de la population blanche menaçant sa suprématie. Donc déjà c'était écrit dedans et c'est ce que l'on peut observer. C'est ainsi agité, plaidant pour un contrôle de la natalité ciblant spécifiquement les non-blancs, etc., les non-blanches, résume-t-elle. C'est ainsi que les femmes, pauvres et non blanches, se voient souvent imposer le type de contraceptif, à savoir qui est le stérilet, puis à partir de 1969, un contraceptif hormonal baptisé le Depo-Provera. Il est injecté par piqûre et fait effet sur une durée de 3 à 6 mois. Produit par la firme américaine Jones, il est commercialisé comme traitement de l'endométriose à partir de 60, avant d'être testé pour ses propriétés contraceptives à partir de 1963. Les expérimentations sont menées au Brésil, au Chili ou à Porto Rico, mais l'administration américaine de contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques refuse de le mettre sur le marché en tant que contraceptif. Elle ne donne aucune autorisation, et cela jusqu'en 1992, en y ajoutant de nombreuses restrictions en raison de ses lourds effets indésirables avérés. Donc voilà, encore une fois, c'était la même chose pour les pesticides et le chlordécone, pour cela qu'il y a certains liens, certaines relations à établir entre ces phénomènes, sauf avec un dénominateur commun, c'est le gouvernement français qui est toujours à l'origine de tels phénomènes. Pourtant, alors comme je vous disais, comme pour la Martinique, et le chlordécone a été importé, a été appliqué à La Réunion, c'est ce fameux Depo-Provera qui sera importé à La Réunion à partir de février 69. Bien que des femmes soient près de 88% à se plaindre des troubles, il représente ainsi 60% des prescriptions dès 1970 et est utilisé pour les femmes dont le niveau intellectuel était très bas. Qu'est-ce qu'ils décrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est ce qui est écrit dans un rapport, un médecin, le docteur Luneau. Cet aveu révèle le peu de place laissée au choix des consultantes, résume la chercheuse. Il y a eu l'Union des femmes de La Réunion, organisation féministe de Lille, qui a dénoncé l'usage de ce contraceptif dans son journal, retrace la sociologue, et s'est dit « Nous demandons que les femmes ne soient pas traitées comme des cobayes. » Elle alerte, cette Union des femmes de La Réunion, les lectrices sur les effets du Depo-Provera, règle abondante, allant jusqu'à l'hémorragie, cas d'une nuisance d'enfants mal formés après avoir utilisé cette méthode. Cette Union des femmes de La Réunion, et elles ont été soutenues par les communistes et l'organisation parvient ici à ouvrir un débat public sur l'opportunité de ce contraceptif et à contraindre les autorités à réagir, poursuit Myriam Paris. Les vérifications dans l'Hexagone révèlent que le médicament est principalement réservé aux patientes internées dans des hôpitaux psychiatriques. C'est encore pire. C'est un peu similaire. Face à la remise en question de ce contraceptif par les autorités, les médecins réunionnais se mettent vent debout en agitant le risque d'une augmentation significative du taux des avortements, etc. Il faut savoir que ces médecins qui ils avaient les manches longues, pourrions-nous dire, ils obtiennent satisfaction puisqu'en 1980, le ministère de la Santé donne l'autorisation de mise sur le marché du Depo-Provera à des fins contraceptives. La sociologue conclut donc que les femmes réunionnaises, pauvres et non blanches, ont ainsi été soumises à des méthodes particulièrement abusives et coercitives par les responsables des organisations locales dédiées à la réduction de la natalité qui ont développé des discours et des pratiques clairement eugénistes. C'est à la fin de cet article qu'il me semble être important de pouvoir livrer pour dire un peu quelles sont les pratiques qui sont mises en place dans les dernières colonies françaises et pour dire que nous ne sommes pas tout à fait. Alors, pour clore cette émission, nous allons passer à deux communiqués. C'est Foncœur La Réunion, d'abord, Guy.
Qui organise une soirée de soutien en faveur des victimes du cyclone Garance. C'est le dimanche 16 mars 2025, à partir de 17h, à la Maison du Champ, 49 rue Chappe, dans le 4e, à Marseille. Au lendemain du passage dévastateur du cyclone Garance sur l'île de La Réunion, il est urgent d'aider à reconstruire et à redonner espoir aux habitants sinistrés. Sensibilisé par les nombreux besoins des personnes touchées, le CAIR Maloya.
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 Le CAIR Maloya. On va connaître Maloya, c'est même. On connaît Zoukoum pas, mais on va connaître Maloya.
De loin. Pas mes neveux, mais de loin. En collaboration avec la Maison du Champ, organise cette soirée musicale de soutien.
Donc c'est ce dimanche 16 mars à la Maison du Champ, 49 rue Chappe. Alors le théâtre qui réapparaît, c'est Afrigidji Gui Théâtri. Nous saluons tant Kélé que Nagui. Alors, qui a déménagé, qui se situe au 30 rue du Bénois actuellement, dans le 1er Marseille. qui présente une pièce de théâtre, danse, etc., ce qui s'intitule « Illusion », entrer dans un monde satirique où l'intelligence artificielle redéfinit les liens entre l'humain et le spectacle vivant. Donc « Illusion » mêle théâtre, danse et musique pour explorer avec ironie et émotion cet univers fascinant. Donc « Illusion » est une expérience unique où l'intelligence artificielle rencontre l'éclat des spectacles vivants dans un tourbillon de rire et de réflexion. Donc il y a bien sûr les responsables d'Afrique Djigui Théâtre qui vous invitent à venir et à participer. Cela se déroule ce soir, vendredi 14 mars à 19h et demain, samedi 15 mars à 19h30. Donc il y a un tarif pour aider Afrique Djigui Théâtre qui est à 15€ avec une possibilité de restauration avec, c'est un spectacle tout public apparemment. Sur ce, nous vous disons, nous arrivons à l'heure fatidique. Nous espérons vous retrouver le second vendredi du mois de février, d'avril plutôt. Et je pense que nous aborderons la problématique de 27 avril. 27 avril correspondant au décret Victor Schœlcher, en établissant une comparaison entre la première abolition de la première révolution française avec la première abolition de l'esclavage et la seconde, première qui ne prévoyait pas le dédommagement des propriétaires d'esclaves. Quant à la seconde, dans le décret Schœlcher, c'était prévu, et voir un peu qu'est-ce que les familles Becquet, les propriétaires d'esclaves, ont-ils fait de cet argent et comment est-ce que cet argent a-t-il été à l'origine de la création du Crédit Martiniquais, Crédit Martiniquais qui a fait faillite, qui a été mis en faillite par ses propriétaires, qui étaient notamment les familles Becquet. Et nous parlerons de vous parler du groupe Bernard Ayotte, très certainement aussi, de voir comment a-t-il pu devenir hyper millionnaire en étant que dans un petit pays qui est la Martinique, et puisqu'il est une des familles française, Bernard Ayotte, est une des familles millionnaires, une des principales familles millionnaires de France. Voilà, merci Sidi pour tout ça. Et nous qu'à 10 autres, tu béret, plus fausse, et nous qu'à retrouver comme nous dans un mois. Quoi. Allez, plus fausse, tu béret. Bye bye.
Passe la mêlée fausse.